France Musique.
Stéphane Grant, Les Grands Entretiens, France Musique.
Je m'appelle Christa Ludwig et je suis née le 16 mars 1928 à Berlin. Je suis très vieille. Je suis mezzo-soprano, ou on peut dire soprano-mezzo.
On a évoqué le festival de Salzbourg, Christa Ludwig. On n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout encore, du festival de Bayreuth. Et là, on évoque Wagner. Deux fois, bien sûr. Ouais. Si j'évoque les deux, c'est que vous avez souvent dit aussi que l'ambiance des deux festivals, évidemment, et le rapport du public dans les festivals, c'est très différent. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à Salzbourg? Là, elle a été année après année. Ouais. Et de Bayreuth?
Oui, Salzbourg est international et la ville est belle. La construction de tout ça, le baroque, le rococo, c'est tellement beau. Et aussi le public international, c'est plus fin que Bayreuth. Bayreuth était très allemand. Et aussi les chanteurs de Wagner là-bas, des hommes, ils sont presque 2 mètres grands. Et surtout, j'aimais bien Wilhelm Wagner.
Le
petit-fils de Richard Wagner. Et quand il était plus là, il était malade et mort, et c'est son frère. Et son frère était aussi un petit peu rustical, rustique, oui.
Rustique, oui.
Et ce n'était pas ma cup of tea, non, pas du tout, non, pas du tout, non.
Il y a le côté, comme on dit en anglais, show-off quand même à Salzbourg. Il y a beaucoup de gens à la fois très mélomanes et très riches. Ce sont les belles robes, les beaux costumes. Vous aimiez aussi cette ambiance du festival de Salzbourg?
Oui, je pense que le spectacle n'est pas seulement dans la salle. Le spectacle est dans la rue. On m'a raconté une chose. Le hôtel Goldene Hirsch, c'est à côté du festival. On va 1 minute à pied. Vraiment 1 minute. On crosse la rue. Bon. Et là, ça sont des gens qui se laissent chauffer avec la grande voiture de Goldene Hirsch jusqu'à la porte du festival parce qu'ils veulent sortir d'une grande voiture. Alors ça, naturellement, c'est... Non. Mais quand même, quand Karajan était marié avec Eliette, et Eliette était un mannequin de Dior. Très jeune, très jolie, avec des cheveux blondes très longs. Et quand Karajan a dirigé, et tout le monde était assis, et la lumière se baisse un petit peu. Alors là, Eliette est venue avec un jeune homme, toujours avec un jeune homme, très joli, avec la plus belle robe de Dior et avec le plus beau bijou et tout ça. Et tout le monde a regardé Eliette quand elle est venue. Aussi, ça était le spectacle dans le spectacle. Et ça n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus bourgeois. Tout ça est plus bourgeois. On ne se met pas en grande robe, non. Non. Oui, aussi, mais pas comme avant.
Unser Glauben ist nicht nur.
trouvez qu'il n'y a plus de stars comme vous aujourd'hui qui font rêver le public à l'opéra, par exemple?
Je n'étais jamais une star, jamais. Non.
Alors, disons,
je suis trop normal.
Mais disons, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, quand on va à l'opéra, des grands artistes comme vous, Christa Ludwig, existent encore, qui font vibrer quand même le public? Ça existe.
Mais naturellement, mais ils ne sont pas des divas, non? Aussi, ouais. Netrebko, aujourd'hui, elle est une grande star, mais elle n'est pas une diva comme Callas. C'est une grande différence. Elle est mariée avec un ténor, ok? Bon. Elle est normale, elle chante bien, elle est normale. Non, ce n'est pas Callas. Callas avec les affaires, une vraie prima donna. Il doit avoir 7 affaires dans une année, de grands succès ou de grands éclats de quelque chose.
Faire parler d'elle.
Des choses éclatantes, mais pas normales, non?
Mais vous, donc, vous dites, moi, je n'étais pas une star.
Non.
Moi, je n'étais pas une prima donna. Un
mezzo, non, je ne mezzo soprano, je n'ai jamais une star. C'est seulement le soprano. Nous sommes de prima donna, non, seconda donna.
Vous avez entendu citer quelques noms de grands chanteurs d'opéra d'aujourd'hui au cours de ces entretiens. Christa Ludwig, ceux que l'on admire, que l'on va voir, qui remplissent les salles actuellement, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann. Vous, comment regardez-vous leur parcours, leur carrière?
Aujourd'hui, beaucoup est fait dans la publicité, avec la publicité. Avec Netrebko, par exemple, elle était très jolie quand elle a commencé ici à chanter. Elle était jeune, elle a une très bonne voix, elle a une très bonne technique, et elle a un sentiment de ventre, on dit. Vous connaissez pas ça?
Non.
Un Bauchgefühl. L'interprétation ne marche pas avec la tête, ça marche avec le ventre.
Les tripes.
Avec les tripes, oui. Et tout ça ensemble fait l'art de Netrebko. Et on aime ça, et c'est très bien pour elle, et on a une publicité énorme. Tout le monde voit seulement la publicité, mais elle chante très bien. Je ne veux pas dire quelque chose contre, mais on applaudit, fait d'applaudissements aussi pour la publicité. Aussi Kaufmann a cette formidable voix, et il est beau, comme Corelli, non? Mais il n'a pas la voix comme Corelli, non?
Vous trouvez que les chanteurs prennent des risques beaucoup aussi, quelquefois, aujourd'hui, risques de répertoire, je veux dire?
Non. Oui, peut-être. Quand Netrebko a chanté Lady Macbeth, pas parce que moi j'ai chanté Lady Macbeth, pas du tout, mais j'ai écouté qu'elle a voix un petit peu de wobble. Ce n'était pas elle. Maintenant, Aïda, elle veut chanter Aïda à Salzburg, ça, je crois, c'est très bien pour elle. Et aussi, si Kaufmann veut chanter Othello, je sais pas. Parce que aussi, moi, j'ai remarqué, quand j'ai chanté, par exemple, Lady Macbeth ou La forme sans ombre, quelque chose dans ma voix n'a pas marché comme avant, si bien, si facile, parce qu'on a, je ne veux pas dire ruiner la voix, non, c'est trop, mais on a fait quelque chose aux cordes vocales, quelque chose ne marche pas comme avant. Mais si on veut une carrière avec ça, on fait. Parce que ça fait plaisir, non? Je voulais seulement, toujours dans ma vie, aussi dans ma vie privée, surmonter des obstacles. Autrement, je trouve la vie tellement ennuyeuse.
Schmuck und nett. Schönstes Städtchen im Alfeld ist Kitschke. Dort gibt es gar viele Mädchen.
évoquer le festival de Salzbourg, Christelle Ludwig, ça me permet aussi d'évoquer, parce que là-bas en particulier, mais pas seulement, vous êtes beaucoup adonné à cet exercice qui est l'exercice du récital. Ça, c'est un répertoire, c'est pas seulement l'opéra, c'est la mélodie, tous les compositeurs que vous avez chantés. Oui. Quel plaisir vous preniez à cet exercice-là, à la mélodie et au récital?
D'abord, ce sont des poèmes qui m'intéressent. Et après, c'est la musique. Là, c'est très difficile, parce que c'est beaucoup plus difficile qu'un opéra. Si on chante un caractère à la scène, on peut se cacher derrière le caractère de qu'est-ce qu'on chante. On a des costumes, on a des perruques, on a des maquillages, et on dit, je joue Carmen, mais je ne suis pas Carmen. Alors, si on chante un récital, on doit se donner soi-même, son âme, son cœur, son tout. On doit être presque nu devant le public, parce qu'on doit se montrer vraiment avec toutes les émotions qu'on a. On ne peut pas jouer. Parce que si on joue une mélodie, le public, il sait. Et on n'a pas le succès. Parce que le public doit être triste avec nous, avec le poème, être joyeux avec le poème. Il doit vraiment, le public doit être vivre avec la mélodie.
In ein freundliches Städtchen trieb ich ein, in den Straßen liegt roter Abendschein. Aus einem offenen Fenster eben über den reichsten Blumenfloh hinweg hört man Goldglocken Töne schweben und eine Schippe scheinen Nachtigallen Chor. Dass die Blüten beben, dass die Lüfte leben, dass in ihrem Blut die Rosen leuchten fort.
Stéphane Grant, Les grands entretiens. France Musique.
Quels étaient les compositeurs, quels sont les compositeurs qui sont dans ce répertoire-là de la mélodie le plus proche de votre cœur?
Ça a été, c'est toujours Brahms, Mahler, Hugo Wolf, surtout Hugo Wolf.
Pourquoi?
Hugo Wolf a mis les mots dans la musique. C'est pas une jolie mélodie, par exemple, par Schubert. Schubert avec la truite. C'est une très jolie musique. Et un très, très triste poème. On doit d'abord comprendre ça. Si on est très jeune, on chante la musique qui est très jolie, mais pas la tristesse qui est dans le poème. Mmh. Et c'est la raison que j'aime Brahms, j'aime Hugo Wolf partout, surtout, et Mahler naturellement, Richard Strauss, j'aime pour la fin d'un récital, parce que c'est toujours bien pour le public. Ça donne beaucoup d'applaudissements.
Ce que vous aimiez chez Hugo Wolf, c'était aussi qu'il correspondait peut-être à une Vienne d'une certaine époque, quelque chose qui n'est pas que la musique, qui est un environnement politique, culturel, pictural, littéraire aussi.
J'aime aussi tout le temps. La fin de romantique classicisme, la fin et de la moderne, comme ça change aussi dans la peinture et dans c'est intéressant. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup de choses parce que je suis ici à Klosterneuburg et je dois toujours prendre un taxi pour Vienne quand je veux voir quelque chose et c'est très cher.
Ringlein sollt sein.
Du récital et de la mélodie, Christa Ludwig, c'est de trouver le bon pianiste qui va avec vous et de trouver le bon accompagnateur.
Oui.
Quel pianiste avez-vous aimé beaucoup et quels sont ceux qui vraiment ont trouvé des affinités particulières avec vous pour le récital?
Alors d'abord, c'était à Vienne, Eric Werber. Il était aussi professeur dans l'académie. Après, c'était Charles Spencer et aussi avec lui, j'ai jamais eu une répétition. Et je crois que notre premier récital était le voyage d'hiver. Et on n'avait pas une répétition parce que c'était subitement. Et on se comprenait tellement bien que c'était pas nécessaire d'avoir une répétition. Non? Oui, j'avais la chance dans ma vie. J'avais toujours la chance. C'est bien, non?
Avec Eric Werba, pareil?
C'était oh oui. Il m'a appris beaucoup parce que il m'a donné d'abord le premier récital à Vienne, parce qu'il pouvait aller et dire « Je veux Christa Ludwig pour un récital ». Et c'était la première fois que je chantais ici avec lui, et après beaucoup, beaucoup. Non, il m'a appris aussi des mélodies, parce que je ne connaissais pas des mélodies de tout le monde, non, tout le compositeur. Et il m'a appris ça, oui.
Et je ne vous entends pas citer d'autres pianistes peut-être plus prestigieux, entre guillemets, mais un Gérald Moore avec lequel vous avez chanté.
Non, oui.
D'autres encore qui ont une telle grande réputation, qui ont accompagné tous les grands chanteurs de l'époque. Bernstein.
Yeah. Ouais. Bernstein n'était pas un accompagnateur, il était un orchestre, un orchestre sur le piano. Non, c'était formidable, mais ce n'était pas un accompagnateur. J'ai chanté avec lui aussi à New York, un récital. Mais James Levine, il était formidable, pas seulement avec l'opéra au Metropolitan, aussi avec la camamusique, avec la musique de chambre. Il a beaucoup fait. Et naturellement aussi un accompagnateur pour un chanteur fantastique. Et Baron Bohem, j'ai aussi fait un disque de Hugo Wolf, aussi sans répétition, sans rien, aussi possible. Si on a la même vague de musicalité, ça, tout va bien.
Le 14 décembre 1994, Christa Ludwig, ce sont vos adieux sur la scène de l'Opéra de Vienne, Clytemnestre, dans Elektra de Richard Strauss. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous vous étiez préparé?
Je pas du tout préparé. Ma mère était morte. Et j'ai chanté si long ma mère était vivante. Et quand ma mère est morte, je dis maintenant je m'arrête.
Ça veut dire qu'elle vous a accompagné quasiment tout le long de votre carrière?
Oui, oui. Je sais quand je pouvais, parce que tout le dernier répétition avant une récital, je fais avec, devant ma mère et mon mari. Et une fois, elle avait plus que 90 ans, et je ne pouvais pas chanter une ton vraiment bien. Elle s'est levée dans le fauteuil, comme moi je me lève aussi maintenant, lentement, et il m'a montré le ton. Et il a chanté ça. Et j'ai dit, alors maman, tu peux faire ça. Moi, je ne peux plus. J'avais aussi 65 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, moi, je ne peux plus. Elle m'a dit, tu n'as pas assez travaillé. C'était ça. Oui. Si on pense, quand on est toujours dans une hall d'aéroport et tout ça, pourquoi je fais ça? Naturellement, on fait ça pour l'argent. C'est normal, non? Mais toujours la valise faire et deux faire et un hôtel et un autre hôtel et allez, on a assez. Et moi, j'avais 66 et trois quarts, c'est assez. J'avais 50 ans de chanterie. J'ai ras-le-bol. J'avais ras-le-bol. Et j'étais tellement, aujourd'hui aussi, tellement contente de ne plus chanter. Et je ne veux plus être dans une autre vie, jamais plus être une cantatrice, jamais. Je raconte toujours une expérience que j'ai faite à Hambourg. C'était un gala de Rosenkavalier. Et Schwarzkopf était le maréchal et moi, Octaviane. Et Walter Berry, mon premier mari, il était le Ochs von Lerchenau. Et après la représentation avec toutes les fleurs, tout était fini et on est à la porte pour aller à l'hôtel, non? Et j'ai vu la Madame Schwarzkopf avec toutes les fleurs par terre. Personne s'occupait d'elle. Elle attendait un taxi. Et mon premier mari et moi, on a aidé pour les fleurs et tout ça, pour le taxi. Personne n'est là. Et ça est la vie d'une diva. Hein? On fait le chant parce que ça nous plaît. On a un talent, on a une voix. Et on gagne son argent avec ça. Et ça fait plaisir avec de grands chefs d'orchestre. Mais on doit savoir que la vie après une représentation, on est toute seule. Seule dans une chambre d'hôtel et seule à la rue comme Madame Schwarzkopf. Non, non. C'est trop difficile, c'est trop de sacrifices qu'on doit faire. Parce qu'on doit toujours, on pense seulement à la voix le matin quand on se réveille, houhou, la nuit si on dort, houhou, la voix est là, oh non, c'est l'existence, c'est terrible. Toujours les petites cordes vocales. Non, on n'a rien d'autre dans la tête que le cordes vocales, c'est terrible. Et je pensais toujours que je pouvais peut-être être une bonne mère. Non, j'étais presque jamais là. Maintenant, je suis avec mon fils plus souvent ensemble. Depuis 7 ans, je vis ici, à Klosterneuburg, et il vit à côté de moi. Et maintenant, j'ai une relation avec mon fils, mais quand il était plus jeune, je ne sais plus.
C'est votre maman qui l'a beaucoup élevé.
Ma mère.
Votre mère, oui.
Oui, ma mère.
Ça a été une sorte de libération, du coup, quand vous avez arrêté de chanter en 1994, vous avez pu faire tout ce que vous ne faisiez pas pendant 50 ans, c'est-à-dire parler, boire, un coup de temps en temps.
Ah oui, oui, j'étais heureuse. Et c'était en décembre, et ça neigeait. Et je suis allée, le jour après la dernière représentation, je suis allée à Vienne, dans la rue, avec le cou ouvert. Je me volais une fois enrhumée, en tranquillité. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'ai pas enrhumée. Ça commence tout dans la tête.
Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui vous font vibrer que tous les répertoires qu'on a évoqués? On n'a pas parlé beaucoup de Bach. Vous avez beaucoup chanté Bach et enregistré, bien sûr, des passions, messes en si. Est-ce que Bach au piano, par exemple, est quelque chose que vous aimez beaucoup, Christa Ludwig?
Dans mon île, die einsame Insel,
l'île déserte,
je prends Gelingould avec Bach,
naturellement.
On a toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a pas entendu. Et ça, c'est avec beaucoup de facettes, c'est extraordinaire. Et c'est la mathématique, non? C'est extraordinaire. Non, c'est la seule chose que je prends avec moi. C'est ça.
Ouais. Merci infiniment de nous avoir reçus ici, chez vous, Christa Ludwig. C'était un grand plaisir, un grand honneur et une grande émotion, je peux le dire. Merci beaucoup.
Et excusez-moi mon mauvais français. Bien. Et maintenant le café?
Avec grand plaisir.
Yeah?
Oui.
Oh, okay.
Avec grand plaisir.
Un petit, un grand tasse comme on vous
un
voulez.
Petit.
Un petit. Oh, aussi un petit tasse avec du sucre et du lait ou non? Avec.
Pas de sucre. Voilà, c'est sur cette sarabande de la deuxième partita de Bach et avec Glenn Gould que nous prenons congé de Christa Ludwig qui nous accueillait il y a quelques semaines dans sa maison de Klosterneuburg, pas très loin de Vienne. Et depuis cette rencontre, d'ailleurs, la chanteuse a soufflé ses 89 bougies. C'était le 16 mars dernier. Un grand merci à Perrine Mingui qui a réalisé cette série d'émissions avec Laurent Lucas pour la prise de son, Pierrick Charles pour le mixage et Céline Tronouvelle qui prépare ses grands entretiens. Et sur francemusique.fr, vous retrouvez bien sûr toutes les informations, la réécoute en ligne et le podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.